Laudetur Jesus Christus.
Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
Bonsoir à tous. 5 ans après la crise migratoire de 2015, 2 semaines après le terrible incendie du camp de la Moria à Lesbos, la Commission européenne a dévoilé ce midi son nouveau pacte pour les migrations et l'asile, une réforme qui est censée rendre obligatoire la solidarité de tous les pays de l'UE et qui remplacerait le très contesté règlement de Dublin, la clé de voûte du système actuel qui confie au premier pays par lequel un migrant pénètre en Europe la responsabilité du traitement de sa demande d'asile. Cette réforme, très attendue mais plusieurs fois repoussée, devra être endossée ensuite par les 27 États membres et le Parlement européen. Les discussions s'annoncent difficiles. Pierre Benazé.
Le nouveau pacte pour l'asile et la migration de la Commission européenne a été adopté ce mercredi matin par les 27 commissaires européens lors de leur réunion en collège. Un pacte qui doit créer une solidarité obligatoire entre les 27 pays de l'Union européenne. On se souvient des problèmes après la crise migratoire de 2015-2016 pour faire jouer la solidarité en particulier avec les pays d'Europe centrale et orientale, ceux du groupe de Visegrad. Il y aura désormais la possibilité d'une contribution flexible, donc pas d'idée de relocalisation par quota obligatoire comme ça avait été proposé en 2015 et 2016 et qui avait provoqué une levée de boucliers en Europe centrale. Maintenant, les pays qui ne veulent pas prendre de demandeurs d'asile pourront aider les autres pays qui en accueilleront, par exemple en les aidant pour le retour des migrants. Il y aura un mécanisme de solidarité, par exemple pour le débarquement des migrants. Il y aura aussi pour eux un statut immédiat à l'arrivée après un filtrage sanitaire. Il y aura aussi un filtrage de leur statut en quelque sorte pour que les migrants sachent immédiatement s'ils peuvent espérer avoir une demande d'asile acceptée un jour dans l'Union européenne, et sinon les retours seront accélérés de manière immédiate après l'arrivée dès ce premier filtrage. L'espoir de la Commission européenne est que le Parlement européen et le Conseil des 27 États membres puissent adopter d'ici la fin de l'année ces propositions. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
Ce nouveau pacte a provoqué l'inquiétude de plusieurs organisations, parmi elles Caritas Europe, qui redoute, avec les procédures express aux frontières, une dilution des garanties juridiques des migrants et des détentions accrues. Ce matin, une douzaine d'organisations religieuses, dont la Conférence des Églises européennes, a rappelé dans une déclaration la vocation des chrétiens à accueillir l'étranger. Plus de 5 des 31,5 millions de personnes infectées par la Covid-19 se trouvent sur le sol européen. Et si à Bruxelles, le port du masque ne sera plus obligatoire à partir du 1er octobre, en Espagne, l'armée a été appelée à l'aide pour réaliser des tests et désinfecter la région de Madrid. En France, le ministre de la Santé pourrait annoncer tout à l'heure de nouvelles restrictions dans la capitale. En ces temps de pandémie, personne ne doit être laissé au bord du chemin. Ce matin, le pape François a poursuivi sa série de catéchèses pour guérir de la Covid-19. Au cours de l'audience générale, il a invité ainsi à se pencher sur le principe de subsidiarité, depuis longtemps, on le sait, mis en avant par l'Église. Xavier Sartre.
Il n'y a pas de vraie solidarité sans participation sociale, sans la contribution des corps intermédiaires, des familles, des associations, des coopératives, des petites entreprises, des expressions de la société civile. Le pape François souligne avec force que les contributions d'en bas doivent être encouragées, qu'il faut écouter même les plus humbles, qu'il ne faut pas faire pour le peuple, mais avec le peuple. Or, on a tendance à écouter davantage les grandes compagnies, les grands groupes pharmaceutiques, au détriment des mouvements sociaux ou des agents de santé, sans parler de certains dont la voix est étouffée ou ignorée, comme les peuples autochtones, ou d'autres qui n'osent pas s'exprimer ou qui répriment leurs convictions religieuses. Pourtant, pour mieux sortir d'une crise, le principe de subsidiarité doit être appliqué en respectant l'autonomie et la capacité d'initiative de tous, en particulier des derniers, explique alors le pape. Chacun assume un rôle et cette mise en œuvre donne espérance dans un avenir plus sain et juste que nous construisons ensemble, en aspirant aux choses plus grandes, en élargissant nos horizons. On agit ensemble ou ça ne fonctionnera pas, ou on travaille ensemble pour sortir de la crise à tous les niveaux de la société, ou nous n'en sortirons jamais, met en garde François.
Une catéchèse à retrouver sur notre page internet vaticannews.va. Au Bélarus, prestation de serment en catimini ce mercredi pour le président Loukachenko. Depuis l'élection du 9 août, qu'il estime avoir remporté avec 80% des voix, des dizaines de milliers de personnes sont descendues chaque dimanche dans la rue à Minsk, notamment au risque de répression policière. un mois après sa prise en charge à Berlin pour un empoisonnement présumé au Novitchok. L'opposant russe Alexei Navalny a été autorisé à quitter l'hôpital, mais encore incapable de se tenir sur ses jambes ou de bouger tous ses doigts, il compte poursuivre sa convalescence en Allemagne. Un empoisonnement présumé qui a créé des tensions entre la Russie et plusieurs puissances européennes. C'est dans ce contexte que le Kremlin annonce élargir ce soir la liste des ressortissants de l'UE interdits de territoire russe. Au Canada, après une gestion de la pandémie contestée, des scandales de conflits d'intérêts qui ont touché sa propre famille et la démission de son ministre des Finances, Justin Trudeau doit s'exprimer au Parlement pour donner les grands axes de la reconstruction économique du pays. Son discours sera suivi d'un vote de confiance qu'il n'est pas acquis à son parti, celui-ci n'étant pas majoritaire au Parlement. Aux États-Unis, dans une lettre adressée au président Trump, au procureur général William Barr, la conférence épiscopale se prononce encore une fois contre la peine de mort jugée inutile et inacceptable. Deux exécutions fédérales sont prévues cette semaine. Les évêques demandent qu'elles soient annulées. Retour dans notre dossier sur le document publié hier par la Congrégation pour la doctrine de la foi qui traite de la prise en charge des personnes dans les phases critiques et terminales de la vie. Cette lettre, intitulée Samaritanus Bonus, rappelle que la vie humaine est un don sacré, inviolable, et insiste sur le soin qui doit être apporté aux malades en fin de vie au regard du message du bon samaritain. L'accent est mis sur l'accompagnement médical, infirmier, psychologique et spirituel pour soulager la douleur, répondre aux différents besoins des patients mais aussi de leurs proches. Les services de soins palliatifs sont l'expression de cette approche interdisciplinaire. Françoise Navaille est aumônier d'hôpital au CHR de Lille. Elle revient tout d'abord sur le sens de sa mission.
C'est une mission qui est vraiment difficile, mais on a beaucoup de chance de pouvoir rencontrer les personnes à l'hôpital. C'est ce que le pape nous demande, hein, d'aller dans les périphéries, de montrer un visage d'église. Ce cœur à cœur, hein, c'est ce que je dis des fois. Enfin, la personne aussi révèle en nous ce que nous avons de plus beau. J'aurais jamais pu avoir cette image aussi de moi-même si je n'avais pas fait cette mission-là. Et je crois que ça, c'est un très beau cadeau que Dieu me fait. En soins palliatifs, c'est un tsunami, en fait, l'annonce de la mort. Et donc, ce Dieu, qu'est-ce qu'il est, en fait? Est-ce qu'il est ce Dieu qui nous aide, qui va nous guérir? Et là, il faut se rendre compte que ce n'est pas ce Dieu-là et qu'il faut comprendre que ce Dieu est présence. Et justement, le regard que l'on peut porter à quelqu'un, il en dit long sur le visage du Christ aussi, dans les évangiles. Un regard qui relève, je pense que c'est ça qui est primordial. Cette sensation qu'ils ne sont pas inutiles et que leur présence jusqu'au bout est vraiment signe d'une vie qui est honorée jusqu'au bout.
Cette expérience change également votre regard sur la vulnérabilité?
Oui, parce qu'en fait, quand on est malade, les repères changent et donc il y a un lâcher prise qui doit s'opérer. La vulnérabilité aussi, c'est la pauvreté. Et dans cette pauvreté, je pense que Dieu parfois s'engouffre. C'est Saint Paul qui le dit, mais c'est triste, c'est dramatique, mais ça peut être aussi le lieu où Dieu vient nous parler, parce qu'on l'entend.
Quelles sont les réponses que vous pouvez apporter face à un patient qui exprime une peur de la mort ou qui aimerait que cette mort soit accélérée?
Il n'y a d'abord aucune réponse à donner, parce qu'en fait on est là pour écouter les gens. Et je suis là vraiment pour accompagner, je ne suis pas là du tout pour émettre un jugement quel qu'il soit. Je suis juste là pour dire que j'écoute. Alors c'est vrai que cette écoute, elle peut aider les gens. Parfois, elle peut donner sens à une vie qui n'a plus de sens, même si c'est très difficile.
Cette mission a-t-elle changé votre rapport au temps?
Oui, parce que quand on rentre dans une chambre, le temps du malade n'est pas le temps des autres. Et on rentre un peu dans leur temps et il y a beaucoup de silence et des regards. Et par cela, ils peuvent aller très loin dans les confidences. Ce temps des malades, pour moi, ça a changé beaucoup ma vie, évidemment. Je vais beaucoup plus à l'essentiel qu'avant, je contemple beaucoup aussi.
Cette mission qui peut être douloureuse, délicate, est-elle également source d'un véritable enrichissement personnel?
Oui, mais c'est pas linéaire, parce que ça travaille, parce qu'il y a des moments où on a fait des visites qui sont plus dures que d'autres. C'est vraiment un enrichissement. Dans le sens où l'espérance, elle doit être là. Je fais l'expérience de l'espérance. C'est-à-dire, je pense qu'on va se retrouver, que la vie qui les attend est belle avec Dieu. Je crois qu'on peut transmettre aussi tout ce qu'on a de plus beau en nous, dans ces moments-là.
Interrogée par Hélène Destombes, Françoise Navaille, aumônier d'hôpital au CHR de Lille, était l'invitée de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain matin, vous retrouverez à 8h30 Manuela à Fiji. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une excellente soirée.